Quelle joie de pouvoir se remémorer des choses du passé. C'est le lien qui nous tient et se remémorer comment Dieu a été présent, comment Dieu a posé des choses au fur et à mesure du temps, récemment, dans nos vies à nous, qui ne sont pas si longues que ça en fait, et puis dans la vie de son peuple en arrière. Tous ceux qui, comme moi, ne sont pas nés dans la région et qui y sont arrivés un jour, bon, pour moi, ça fait pas mal de temps, mais quand même, se sont un jour posé la même question. Qu'est-ce que c'est que ces piquets de couleurs qui apparaissent soudain vers le mois de novembre le long des routes? Puis on vous dit que c'est pour la neige, mais il n'y a pas de neige quand on met les piquets. On vous dit que c'est pour le déneigement, et ça vous étonne, car justement, à ce moment-là, il n'y a pas de neige. Et puis en fait, ce sont des jalons donc, de couleurs qui servent quand tout est blanc, au conducteur du chasse-neige à rester sur la route et à déneiger la route plutôt que les champs, ce qui est plus utile. Dans la parole de Dieu, il y a aussi toute une sorte de jalon. Et ce matin, on a parlé de remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans le temps. Il y a toute une sorte de jalons qui sont posés au fil du temps dans cette parole et qui se répètent de manière différente, de génération en génération. Et quand je dis de génération en génération, quand ça commence il y a 2000 et plus, ça fait quelques générations, et qui nous rappelle où était la route que Dieu avait fixée à son peuple à ce temps-là. Alors ce matin, nous allons lire une série de textes, sept courts textes, disparates, pris dans la parole de Dieu, mais qui ont tous un point commun que je vous laisse découvrir. Il y a un point commun dans tous ces textes. On peut dire déjà, hormis ce point commun, que c'est en tout cas pour nous un sujet de reconnaissance de ce que Dieu, depuis la création, a fait pour son peuple, a fait pour les gens qu'il a suivis. Ces textes sont aussi pour nous ces jalons, justement, qui sont posés là, au bord du chemin, alors qu'on ne sait même pas qu'on en a besoin. Posés par Dieu, sorte de fil rouge dans sa parole, pour lesquels nous pouvons, jour après jour, lui être reconnaissants. Et ce matin, on a chanté une phrase de chant qui disait « Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, marchant à nos côtés. » Moi, j'ai vu le gars qui piquait ses poteaux, là, tout le long. Alors, je vais commencer la lecture de ces textes, et volontairement, je ne vais pas les afficher, pour que vous puissiez les écouter et chercher, trouver quel est ce point commun et réfléchir à ces textes. Je donne juste la référence et je lis le texte. Comme ça, vous n'aurez pas le temps de chercher dans vos Bibles. Genèse 2,9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Premier texte. Deuxième texte, Genèse 6,14. Mais toi, Noé, construis un grand bateau en bois résineux. Troisième texte, il y en a sept, Exode 2.1. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et elle le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduit d'asphalte et de poix et y plaça le petit garçon. Exode 4, verset 17. Dieu dit à Moïse, « Tu prendras ce bâton en main et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. » Alors Moïse emmena sa femme et ses fils, et il les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. Nombre 17, verset 8. Le lendemain, Moïse entra dans la tente et constata que le bâton d'Aaron qu'il avait déposé pour la tribu de Lévi avait produit des bourgeons et qu'il portait des fleurs écloses et même des amandes déjà mûres. Moïse reprit tous les bâtons qui se trouvaient devant l'Éternel et les apporta aux Israélites. Ils constatèrent ce qui s'était passé et chacun reprit son propre bâton. Exode 15, verset 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est un peu comme toutes ces fontaines, quand vous faites du vélo, vous avez soif et vous arrivez vers une fontaine et c'est marqué « eau non potable ». Raté. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous ? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et enfin, le dernier texte, 2 Rois 6, verset 4. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon maître, quel malheur! C'est une hache que j'avais empruntée. » L'homme de Dieu lui demanda, « Où est tombé le fer de la hache ?» L'homme lui indiqua l'endroit. Alors Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt, le fer revint à la surface. Et le prophète dit, « Ramène-le à toi. » Et l'autre n'eut qu'à tendre la main pour saisir le fer et le reprendre. Voilà, je pense que ce n'était pas difficile, hein, ce n'était pas le quiz à Clément, de retrouver le point commun de tous ces textes. Dans le contexte particulier de chacune de ces situations, Dieu va lier son œuvre, son action, sa puissance au travail des hommes au moyen d'un morceau de bois, d'un simple morceau de bois. Il y a encore de nombreux textes dans la Bible qu'on aurait pu ajouter, il y en a plein. Vous chercherez, il y en a plein. Vous en avez sûrement plein qui vous viennent à l'idée, où l'homme utilise du bois, et où l'homme prévoit du bois parce que Dieu lui a demandé de faire quelque chose. Et je vous invite à reprendre maintenant ces textes un par un, voir ce qu'ils nous disent. Le premier texte nous parle d'un Dieu créateur. Il est d'abord important de se rappeler que Dieu est notre créateur. C'est au début du livre de la Genèse. La Genèse, c'est le livre du commencement. Vous savez, les premiers versets de la Bible, c'est « au commencement du commencement ». C'est-à-dire qu'il n'y avait rien avant. « Au commencement du commencement ». Nous apprenons cela au début de sa parole, donc, et nous apprenons que nous sommes ses créatures. Et si nous sommes ses créatures, nous l'avons aussi lu, c'est lui qui a fait pousser tous les arbres dans le jardin d'Éden. Tous les arbres. Dans tous les arbres, il y avait notamment l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Un arbre que nous allons retrouver tout à fait à l'autre bout de la Bible, de la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, comme une conclusion, comme la fin d'un cycle. Dieu est notre Créateur. C'est de lui que nous recevons toutes choses. C'est lui qui est le commencement, c'est lui qui est la fin. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga, comme on nous le dit. Le début de l'alphabet et la fin. Après, il n'y a plus d'autres lettres, il n'y a plus rien d'écrit. C'est notre premier texte. Il y avait parmi ces arbres, on l'a lu, celui de la connaissance du bien et du mal. Et nous connaissons dans la Bible la suite de cette histoire, la chute de l'homme, qui a fait de nous, les humains, ce que nous sommes depuis notre naissance, des êtres séparés de cette relation d'amour avec notre Créateur. C'est ce que la Bible définit par le péché, ce fait d'être séparé de Dieu. Et des années plus tard, alors que sa création, la création que Dieu avait faite, les hommes que Dieu avait créés pour mettre dans ce jardin, vivent dans une débauche que Dieu ne peut plus accepter, Dieu va faire un grand tri dans toute cette création et va utiliser Noé pour construire ce bateau, cet immense bateau, plus de 100 mètres de long, en bois de cyprès. On n'a pas l'impression qu'avec un bois de cyprès, on peut construire un si grand bateau que ça. Et avec ce bois et ce bateau, Dieu va laver, au sens propre et au figuré, va rincer la terre de tout ce péché. Et notez aussi que lorsque la colombe, à la fin de tout ce temps, lorsque la colombe a été lâchée, qu'est-ce qu'elle a ramené dans son bec ? Un morceau de bois, de nouveau, un rameau d'olivier. Et elle est revenue vers l'arche avec ce bois d'olivier. L'humanité va en faire un symbole de paix, mais ne va pas suivre le chemin proposé par Dieu pour autant. Elle en gardera uniquement le symbole, l'image. Dieu a été dans l'histoire de son peuple, dans l'histoire de l'humanité, et demeure le Dieu sauveur de cette humanité, celui qui lave et celui qui sauve du péché. Mais on doit constater aussi que depuis Noé, les hommes et les femmes, donc les descendants de Noé, nous allons demeurer rebelles au plan de Dieu. Rebelles au plan de Dieu. Et c'est là que Dieu devient un Dieu visionnaire et un Dieu prévoyant. Et nous avons cette histoire de cette corbeille en papyrus. Tous ceux qui sont allés en Égypte ont ramené un espèce de papyrus, là, avec un truc imprimé dessus, une belle photo, une belle histoire, une belle image. Vous avez vu comme c'est fin, le papyrus ? La corbeille, là, elle est en boîte papyrus. Une histoire qui est difficile à croire, aussi. Ce papyrus, cette espèce de roseau, si léger, si friable, mais qui flotte. Il y en a qui ont traversé l'océan Atlantique complet sur un radeau en papyrus. Lisez l'histoire du Kon-Tiki, vous verrez, c'est extraordinaire. Humainement, c'est difficile à croire qu'une maman, comment est-ce qu'on peut imaginer ça, qu'une maman dépose son bébé dans une corbeille en roseau, dans un fleuve, comme le Nil, pour le sauver. Surtout quand on sait que ce fleuve était infesté de crocodiles. Difficile à croire. Et pourtant, on ne peut que constater, nous, alors qu'on croit qu'elle l'a abandonné, son bébé, on ne peut que constater que, consciemment ou non, elle a été un instrument guidé par Dieu, totalement incluse dans son plan qu'il avait préparé à l'avance pour que le destin de Moïse s'accomplisse et la liberté de son peuple vienne enfin. Notre Dieu est un Dieu visionnaire qui utilise des hommes et des femmes ordinaires pour réaliser un plan extraordinaire. Un autre point, lors de sa discussion avec Moïse, Dieu l'invite à utiliser son simple bâton de berger. Il lui dit, prends le bâton que tu as dans la main. Tu prendras ce bâton en main. C'était celui qu'il avait pour monter sur la montagne. Simplement, combien de nos anciens avaient des bâtons très lourds pour monter sur la montagne? Maintenant, on a des bâtons super en carbone, qui ne pèsent rien du tout. Mais combien avaient des gros bâtons, voire des bâtons encore très hauts, bien plus hauts qu'eux, pour monter sur la montagne? Dieu l'invite à utiliser son simple bâton de bois, d'un bâton de marche ordinaire. Tout d'un coup, la puissance de Dieu en fait un serpent. Et il dit à Moïse, reprends ce bâton, reprends ce serpent. Et Moïse tend la main et le serpent redevient un bâton. C'est avec ce bâton, Dieu explique à Moïse, c'est avec ce bâton que tu accompliras devant le Pharaon des signes miraculeux. Ce qui sera réalisé à plusieurs reprises. C'est pour ça que ce bâton, quelques lignes plus bas, est appelé le bâton de Dieu. Pourtant, il n'y a rien de particulier dans ce bâton. Aucun pouvoir dans ce bâton. Cela n'a rien à voir avec je ne sais pas quel sabre laser. J'en ai un dans mon garage, je ne sais pas à quoi ça sert. Il ne s'allume plus. Au pouvoir magique qu'on voit dans ces séries de science-fiction, dont on a été abreuvé et qui, en fait, n'impressionne plus personne. Non, c'est ici simplement un instrument, un outil de la toute-puissance de Dieu, mais qui a été capable d'ouvrir la mer, de donner de l'eau à partir d'un rocher, par exemple. Un simple bout de bois, mais valorisé par l'obéissance de Moïse à l'appel de Dieu et à la puissance de Dieu. Notre Dieu est puissant. Puissant, il se manifeste par des signes forts et clairs dans notre vie de tous les jours à nous. C'est aussi que, ainsi que tout au long de l'histoire, Dieu conduit et guide son peuple. Nous aussi, nous sommes son peuple. Mais un peuple souvent bien rebelle. Un peuple qui, comme nous, a souvent les mémoires courtes et qui oublie ce qui s'est passé hier, mais qui râle pour ce qu'il y a aujourd'hui. Un peuple qui ira, on l'a lu, jusqu'à renier ses chefs, les chefs que Dieu lui a donnés pour le guider dans le désert. Alors une fois de plus, Dieu va mettre chacun devant ses responsabilités et ses propres engagements. Chaque chef des 12 tribus devra déposer dans la tente son propre bâton de marche, sur lequel il a écrit son nom. Pour décider qui sera le chef, c'est Dieu qui décidera. C'était des bâtons très secs, on va dire des bâtons un petit peu comme celui-là. Vous avez vu ce beau bâton noueux? C'est sec, hein? J'ai fait des trous. C'est un bâton très sec, très sec, des bâtons solides pour marcher. Dieu va manifester ici sa justice et confirmer les missions des chefs de son peuple par un miracle incompréhensible de nos jours. D'un bâton sec comme celui-ci, il nous est dit qu'en une nuit, il va sortir des bourgeons, des fleurs et des fruits. D'un bâton sec comme celui-ci. Un miracle comme seul Dieu peut en produire. Alors déjà c'est un miracle, mais sur un arbre, on n'a jamais vu en même temps des bourgeons, des fleurs et des fruits. On voit soit des bourgeons, soit des fleurs, soit des fruits. C'est encore un deuxième miracle de Dieu. Quelque chose qu'on ne trouve pas dans la nature. Combien Dieu maîtrise cette nature. Dieu va montrer ici la vie avec ses feuilles, ses bourgeons, d'un bâton sec et sans sève. Il va montrer où est l'avenir, les fleurs porteuses, porteuses d'un pistil, d'étamine, et donc d'une graine qui va faire un fruit. Et puis il va montrer la mission à accomplir, les fruits que le bâton va porter, le bâton d'Aaron, Dieu de vie, Dieu d'espérance et Dieu d'engagement avec ses fruits sur ce bâton. Dieu conduit et guide son peuple, ses enfants, sur le chemin qu'il a prévu, avec justice. Les deux derniers textes que je vous ai lus nous rappellent deux exemples que Dieu veille et pourvoit à nos besoins les plus élémentaires chaque jour de notre vie, pour peu qu'on prenne garde de se confier à lui et de croire en sa toute-puissance. Et d'après ce qu'on a vu de tout son peuple et ce qu'on apprend dans la Bible, Dieu est puissant de génération en génération. Ainsi, à Mara, l'eau n'était pas potable. Le peuple avait soif. L'eau n'était pas potable. La soif de tout un immense peuple et de son immense bétail. Et Dieu va faire un signe fort et profiter de ce temps pour enseigner son peuple, lui donner les tables de la loi et le mettre à l'épreuve après tant de signes. Simplement à l'aide d'un bâton. Simplement à l'aide d'un bâton. Enfin, plus tard, cette histoire encore donnée aux hommes, un Dieu qui se montre présent tous les jours dans un détail qui nous paraît aussi incompréhensible. Bien embêté, ce bûcheron. Qui, vous avez déjà, quand vous tapez avec un marteau, votre marteau, le bout est déjà parti. Ça vous est déjà arrivé. On a l'air bête, hein. Il roule devant comme ça. La même chose, avec une hache, manque de peau, il y avait une rivière, le Jourdain. Manque de peau, la hache, elle tombe dedans. C'est pas facile. Je sais pas si le Jourdain est trouble, mais c'est pas facile de trouver un bout de hache dans le fond de l'eau. L'intervention du prophète de Dieu est inattendue ici. Le bûcheron sait. Et le prophète de Dieu aussi, et vous aussi, que le fer, ça flotte pas. Qu'il est probablement perdu. Mais Élisée, prophète, en phase avec Dieu, porte-parole de Dieu, est coutumier de sa puissance, de ses miracles. Il ne doute pas un instant et va montrer combien Dieu est maître dans son plan de la nature qu'il a créée. De nouveau, un morceau de bois jeté dans l'eau, et le fer de la hache revient à la surface. La lame de la hache revient à la surface. Du jamais vu aux yeux d'hommes et de femmes, du jamais vu. Et notre histoire se termine par cette phrase d'une banalité affligeante. L'homme n'a eu qu'à tendre la main pour le reprendre. L'homme n'a eu qu'à tendre la main pour reprendre le fer qui flottait à la surface de l'eau. Quelle puissance dans la main de Dieu, qu'elle maîtrise de toute sa création, capable de tous les miracles pour nous tous les jours de notre vie, même quand on coupe du bois. Alors bien sûr, vous pensez certainement à d'autres textes qu'on va trouver dans le Nouveau Testament par exemple. Alors bien sûr, il y a ce texte de Jean 19-17, Jésus portant sa croix, une croix en bois, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Dans beaucoup d'églises, il y a des croix en bois. Celle-ci, je ne sais pas si vous le savez, mais elle a été faite avec un arbre qui était sur le terrain juste à côté. Elle est historique, celle-là. Elle était faite avec un arbre qui était là. Voilà, il y a quelques années de ça, déjà. Mais ça reste une croix. Elle ne ressemblait probablement pas à celle de Golgotha, mais qu'importe. Ces deux morceaux de bois entrecroisés nous rappellent surtout, en plus de tous les exemples dans sa parole où Dieu a utilisé du bois, nous rappellent simplement que c'est sur le bois, sur du bois, que le Christ Jésus, fils de Dieu, recensé à Bethléem comme fils de Joseph, je ne l'ai pas inventé, mais il était charpentier. Ce Christ, il est mort crucifié. Il est mort crucifié, cloué sur le bois pour laver définitivement tous les hommes de leurs péchés et leur ouvrir un nouvel accès auprès de l'arbre de vie, de cet arbre de vie dont on a parlé au début dans la Genèse. C'est ce que signifie cette croix. Elle est dressée par Dieu. Elle nous relie ensemble avec cette image du bras horizontal. Elle nous relie ensemble. Et puis, elle nous guide aussi vers Dieu avec ce montant vertical. C'est aussi cette signification qu'on voit partout dans notre monde, mais que le monde rejette. Il y en a énormément des croix dans nos carrefours qui indiquent une croisée de route. Malheureusement, les hommes ne changent pas de chemin pour cela. C'est pour cela que Dieu nous a mis en marche sur son chemin, en témoin, en serviteur, en messager pour nos prochains. C'est notre ministère sur la terre. Et j'aimerais vous laisser trois versets importants pour ce chemin. Trois versets pour notre vie de tous les jours, où l'idée du bois, vous le verrez, est encore présente. D'abord, Dieu nous demande d'être prêts. D'être prêts pour, comme on l'a vu tout au long de ces textes, pour être en route sur le chemin qu'il nous montrera. Dans le livre de l'Exode, donc on sait ce que c'est qu'un exode, hein. Dans un exode il y a un déplacement. Dans le livre de l'Exode, Dieu demande à son peuple d'être prêt à partir, la ceinture nouée au rein, c'est-à-dire habillé, prêt, quoi, avec le sac à dos, hein, tout prêt, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Prêt à partir sur le chemin de Dieu. Ensuite, dans le Nouveau Testament, Matthieu 16, 24, Jésus dira à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, de ses propres péchés, de ses propres problèmes, de les reposer là, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Il nous rappelle ce que nous coûte à nous notre engagement, ce que nous devons faire pour nous engager auprès de lui. Lui a payé de sa vie sur la croix. Nous devons aussi porter notre croix au pied de sa croix. Et enfin, il nous invite à nous rappeler, et c'est ce que nous avons fait ce matin, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, cet après-midi encore, à nous rappeler tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce que nous pouvons aussi recevoir et faire par lui si nous restons liés à lui. Jean 15, 5, oui, et c'est un petit clin d'œil aussi au nom originel de notre Église, le CEP, qui au départ voulait dire communauté évangélique de Prévesaint. Un jeu de mots encore, mais c'est un cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors pour conclure, puisque nous avons commencé par l'arbre de vie dans la Genèse, laissons-nous encourager par ce texte à l'autre bout de la Bible. On a pris dans le premier livre de la Bible, on va prendre dans le dernier livre de la Bible. Et dans ce dernier livre, Dieu nous rappelle tout ce que Dieu a fait dans son histoire, nous invite à être reconnaissants et à nous engager avec lui. Pour le meilleur, c'est pas pour le meilleur et pour le pire, c'est pour le meilleur uniquement que Dieu nous veut avec lui. Et il est écrit dans ce livre de l'Apocalypse, rappel à cet arbre, qu'on a vu dans la Genèse et que Dieu a placé lui-même au milieu, au milieu de son jardin d'Éden, de son paradis, Apocalypse 2.7, que celui qui a des oreilles, tout le monde a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Je vous invite à un petit temps de prière. Priez librement si vous avez envie de prier. En tout cas, un temps de prière et de silence pour se rappeler ce que Dieu a fait. Seigneur notre Dieu, d'âge en âge, tu es le même. Tu ne changes pas. D'âge en âge, de génération en génération, tu as conduit ton peuple, tu as guidé ton peuple, tu as béni ton peuple. Et nous voulons ce matin te rendre grâce parce que tu nous as guidés aussi en tant qu'une infime partie de ton peuple. Tu étais présent auprès de nous depuis des générations. Et nous voulons te louer pour cela, te remercier. Et nous voulons te louer pour les générations qui nous ont précédés, pour tous ces ancêtres, pour tous ces ancêtres de la foi que nous avons lus ou relus ce matin, découverts ou redécouverts, pour tous ceux que tu as guidés dans ton plan. C'est vrai, ce matin, nous avons parlé de ce bois, mais il y a tant d'autres moyens dont tu t'es manifesté aussi. On veut te rendre grâce, on veut t'adorer. Et on veut te demander de nous aider à avoir une mémoire un peu plus longue que voir le plus loin que le bout de notre nez, Seigneur, et à réfléchir à tout ce que tu as fait pour nous dans ces derniers jours, dans ces dernières semaines, dans ces derniers mois, dans ces années, dans les siècles qui sont passés. Et comment tu as guidé ton peuple, tu nous as guidés. Et tu as été pour nous un jalon, un témoin, un refuge, un rocher, nous l'avons chanté. Nous voulons te bénir et t'adorer, Seigneur, et te rendre gloire. C'est à toi que revienne toute la gloire pour hier, pour aujourd'hui et au siècle des siècles. Et on veut t'adorer pour cela, Seigneur. Tu es notre Dieu et c'est toi qu'on veut adorer. Amen. Amen.
Je vous laisse prendre connaissance des annonces qui sont affichées. Je vais juste te donner deux, trois petits compléments. Donc tout à l'heure, on a un repas en commun, un grand barbecue, qui sera suivi d'un partage des reconnaissances de bénédictions vécues dans l'année. Alors, après le culte, ce serait bien que quelques personnes puissent disposer des tables dehors, une vingtaine de tables avec les chaises. Comme ça, quand ce sera prêt, on pourra directement commencer. Cet après-midi, en fin d'après-midi, c'est une annonce qui ne concerne pas notre église, c'est pour ça qu'elle n'est pas affichée. À 19h, donc c'est toujours la fête de la musique, c'est le week-end de la fête de la musique. À 19h, il y aura l'église du réveil avec Yann Fontaine qui va interpréter une douzaine de chants à Divonne. Donc l'église du réveil est basée à Gex, mais ils vont interpréter ces chants à Divonne, à la place des Trois Fontaines. Alors c'est pas difficile à s'en rappeler, Yann Fontaine, la place des Trois Fontaines. Alors ce sera donc de la musique pop-rock, funk et reggae. Alors chacun est cordialement le bienvenu si vous voulez aller les écouter, les encourager aussi. Jeudi, on a donc la clôture de la chorale, c'est juste. Hein. Une annonce qui n'est pas indiquée non plus, vendredi soir, il y a une rencontre à Divonne, au temple de Divonne, intitulée « La nuit des veilleurs » à 20h. C'est donc une rencontre organisée par, dans laquelle M. Lionel Grassi va intervenir. C'est donc organisé par l'association ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et donc, Lionel Grassi est représentant de la Fédération internationale de l'ACAT. M. Grassi est spécialiste des conditions de détention dans les prisons africaines. Donc après son intervention, il y aura un moment de célébration, de prière, de partage et de rencontre. Donc vendredi à 20h au temple de Divonne. Dimanche prochain, ce sont aussi les sorties des écoles du dimanche à l'étang de Cessy. Et puis, je vais laisser la place à Rebecca pour une petite annonce pour le Femme Club.
Alors, on ne se retrouve pas demain pour le Femme Club, mais le lundi 29 juin à partir de 18h. Et on a envie d'inviter toutes nos copines qui ne peuvent pas nous joindre parce qu'on se voit l'après-midi et qu'elles sont au travail. Donc, vous pouvez venir vous inscrire vers nous et ça nous ferait plaisir que vous veniez donc, à partir de 18h chez nous et vous laissez bien vos enfants à vos maris. Merci.
Merci. Des annonces déjà en avance. Le 30 août, donc le dernier dimanche d'août, on aura le culte et la journée à la Lècherolle. Donc c'est important de le prévoir, de le savoir à l'avance, de le prévoir. Et puis les 12 et 13 septembre, ce sera donc le week-end au Col des Mosses. Des nouvelles de Didier. Donc Didier a bien été opéré vendredi. Cela s'est bien passé, tant au niveau de l'anesthésie, ce n'était pas forcément évident la question de l'anesthésie, que l'opération en elle-même. Didier remercie pour le soutien dont il a fait l'objet dans l'église. Il remercie aussi pour la main de Dieu puisque tout s'est bien passé et c'est maintenant l'attente des résultats et puis aussi une certaine fatigue à évacuer après cette opération. Je vous rappelle juste le petit sondage Agapé. J'avais fait l'annonce dimanche passé, c'est donc un sondage en ligne en vue de créer une plateforme en ligne, donc sur Internet, pour offrir des ressources pour bien vivre sa foi sur le lieu du travail. Donc ce sondage peut être rempli encore jusqu'à jeudi prochain, jusqu'au 25. Et puis cette semaine, on vous invite à prier pour le Mali, et je vais laisser Anne-Marie vous présenter ce sujet.
Donc c'est le numéro 40 pour ce pays d'Afrique. Vous avez tous entendu parler du Mali, puisqu'il y a eu une intervention française militaire. En fait, le Mali, ce que je ne savais pas, c'est un État laïque, avec un islam plutôt modéré, puisque les partis politiques religieux sont proscrits. Il y a 16 millions d'habitants, 442 000 chrétiens. Mais voilà que dans le nord du pays, donc en 2012, il y a eu des velléités d'indépendance de tribus Touareg, et ces velléités ont favorisé l'installation d'un islamisme radical dans cette région. Et ce qui fait que depuis 2012, des centaines de milliers de Maliens ont fui vers le sud ou vers les pays voisins. Pour les chrétiens, bien sûr, partir, c'était une question de survie. Et tous leurs biens ont été détruits ou confisqués. Même si la plupart des chrétiens vivent maintenant au sud, ils se sentent menacés par les islamistes au nord. L'intervention française dans le pays aide l'armée à minimiser cette menace, mais c'est très précaire. Donc prions pour ces chrétiens, qu'ils soient protégés, qu'ils puissent quand même toujours vivre dans leur pays et que la paix revienne dans ces régions.
Voilà, merci de penser et prier à nos frères et sœurs chrétiens dans le Mali. Je vous invite à vous lever. Je lirai encore trois versets. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu notre louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. On chante encore un chant ? Ouais, ouais. Donc encore un chant avant de nous séparer.